à toutes et à tous. Vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens. Elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+ et sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile, Camille et Léa. Elles viennent nous présenter la nouvelle édition des Safras numériques qui auront lieu du 19 au 23 mars 2024 au Safran. Camille, Cécile et Léa, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien.
Très bien.
Alors, on est là pour parler des Safras numériques. Première question un peu classique qui t'est destinée. Cécile, est-ce que tu pourrais nous représenter très rapidement cet événement ?
Oui, merci. Les Safras numériques, alors, c'est un festival d'art numérique dédié aux nouvelles technologies qui est présenté au Safran, donc le centre culturel du Safran, basé à Amiens, et qui va se passer là pendant 5 jours. Et pendant 5 jours, on reçoit une trentaine d'installations, donc une trentaine d'artistes qui viennent nous présenter leurs travaux.
Donc des installations, des spectacles, il y a toujours une thématique, un grand thème sur cet événement. C'est quoi cette année ?
Alors cette année, on a eu envie de travailler les relations homme-machine qui sont diverses, en se posant une question un petit peu provocatrice, hein, qui n'apparaît pas comme ça dans la communication, mais qui est, est-ce qu'on éprouve plus d'empathie pour nos machines, par exemple nos téléphones portables, que pour nos voisins ou nos amis ?
C'est une question qui est super intéressante et qui est dans l'air du temps. Concrètement, quelles vont être les sous-réflexions qui vont être travaillées, on va dire, voilà, quels sont les petits méandres qui vont être travaillés sur cette grande thématique ?
Alors, on va avoir plusieurs objets, plusieurs machines, plusieurs jeux qui vont prendre vie, en fait. Par exemple, une banane qui fuit les humains, une table de ping-pong qui va bouger pour nous empêcher de jouer, un bras robotique qui est puni à la récré. On a plein d'objets comme ça qui prennent vie. C'est pour donner une âme à ces objets et comprendre comment l'humain arrive à être empathique envers ces objets-là et comment un objet inanimé, non vivant, peut tout d'un coup avoir une âme.
C'est, comme tu l'as dit, une trentaine de structures, enfin de constructions, de spectacles. Ça aura lieu du 19 au 23 mars. On commence avec le numérisage, pardon, qui est la soirée d'inauguration du festival. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu cette soirée, ce premier temps fort ?
Oui, alors ce numérisage, en fait, il a lieu le vendredi, donc le vendredi 22 mars à 19h, là pour se réunir, puis rencontrer justement les artistes présents, les élus, l'équipe du Safran aussi, puisqu'il y a une grosse équipe qui travaille toute l'année dans le centre. Et puis, on enchaînera avec un spectacle de Wang Yi et Kuka à 20h sur le plateau, donc au théâtre. C'est un petit peu ce spectacle, en fait, qui a fait le point de départ de notre réflexion pour l'exposition, puisqu'on a un danseur classique qui danse avec un bras robotisé d'habitude, qui est utilisé vraiment dans les chaînes de montage. Et en fait, il y a un flou qui va s'opérer entre ces deux interprètes. On va plus bien savoir si c'est l'humain qui est humain et la machine qui est machine. Et donc, on est vraiment parti de ce spectacle-là pour réfléchir nos thématiques ensuite.
Est-ce que ce spectacle est gratuit ? Est-ce que cette soirée d'ouverture est gratuite ? Voilà, quelles sont les infos pratiques concernant ce numérisage ?
Alors, l'exposition dure 5 jours, de 9h à 19h et lors de ce temps fort du vendredi, et la même chose pour le samedi jusqu'à 22h. L'exposition, c'est gratuit. Vraiment, l'ouverture aux visites sont gratuites. On est toujours accompagné par un médiateur. Les spectacles, par contre, c'est payant, mais ce sont des tarifs assez raisonnables, on va dire de 5€ à 14€, en fonction vraiment des moyens des personnes.
On y reviendra en fin d'émission. Moi, quand je me suis renseigné un petit peu sur l'événement, on voit qu'il y a quand même des choses très ambitieuses qui sont mises en place. Concrètement, ça prend combien de temps, toute cette préparation, toute cette installation en amont des différentes structures, des différents spectacles ?
Moi, je te remercie de cette question parce que c'est vrai que c'est un des enjeux du festival, recevoir un festival d'art numérique dans un lieu qui n'est pas un lieu muséal, en fait. Le Safran, c'est un lieu de vie toute l'année avec une pratique artistique et amateur. On est plutôt face à des espaces de cours, en fait, de classe. Je vais répondre de deux manières à cette question. D'abord, pour dire qu'il y a tout le travail de programmation en amont qui prend une année, on va dire, c'est-à-dire rencontrer les artistes, parcourir un petit peu la France, les pays limitrophes, même voyager plus loin quand on en a le budget, pour rencontrer des artistes et trouver les œuvres que je vais choisir et qui vont permettre de faire le parcours, le récit en fait qui est proposé pendant l'exposition. Pendant ce même temps, on a tout un travail de négociation financière, parce que c'est aussi quand même un événement économique, dans le sens où il ne rapporte pas d'argent ou très peu au Safran, puisque l'exposition est gratuite. Mais c'est très important pour nous d'être dans une économie de l'art et donc de rémunérer les artistes qui sont présents. Je dirais qu'on a 6 mois de préparation technique, tu vois, aussi à côté de ça, voir si les installations rentrent bien dans les espaces, comment on peut les accueillir, dans quelles conditions, passer toutes les commandes pour la location de ce matériel, puisqu'on n'est pas équipé le restant de l'année pour recevoir ces œuvres-là. Donc ça, c'est tout le temps invisible qu'on ne voit pas. Voilà. Et ensuite, il y a la mise en place vraiment du montage qui se passe là actuellement. Et là, on fait un montage de 3 jours. Ça, c'est vraiment très rapide. Généralement, dans ce genre d'événement, on va plutôt avoir plusieurs semaines, 10, 15 jours de montage pour le nombre d'installations qui sont présentées. C'est la particularité du lieu. On n'a pas envie de couper les cours plus de 15 jours, en fait. Donc, on fait un montage très resserré. Donc, ça nous demande de réunir aussi une sacrée équipe d'intermittents, d'intermittentes et de techniciens pour aider les artistes au montage de l'expo, qui se fait donc en 3 jours.
On comprend que les Safrans numériques sont un des grands temps forts justement de la structure Le Safran. On pourrait parler de ton travail de directrice artistique, je pense, pendant toute une émission, mais du coup, ton rôle, c'est aussi de faire de la programmation. Donc, qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Qu'est-ce qu'il y a cette année comme proposition artistique, comme structure, comme exposition au Safran numérique ? Est-ce que tu peux nous faire un tour d'horizon des principaux temps forts ?
Oui. Alors cette année, comme on parle donc des relations à la machine, on va avoir beaucoup d'objets, de sculptures, de robots, de marionnettes. On va être vraiment dans l'incarnation comme ça de ces images, de ces imaginaires numériques. J'explique ça pour dire qu'on va un petit peu sortir des écrans et de la projection, parfois très spectaculaire, qu'on a d'une certaine immersion. Donc c'est un autre type d'immersion qu'on va proposer. Donc tout à l'heure, je parlais d'animer des objets et de donner une âme à des objets inanimés. Ça nous permet de tisser un fil lié à l'histoire du cinéma d'animation, par exemple, à l'histoire de l'image animée, qui veut dire donner une âme, si on prend l'étymologie de ce terme-là. Puisque à Amiens, on a des écoles d'animation, on a le FRAC Picardie qui est dédié au dessin et qui va jusqu'au dessin animé. Et qu'on a aussi une culture de la marionnette. Donc voilà, ça nous intéressait beaucoup de travailler ces objets-là. Ce qu'on voulait faire aussi, c'était utiliser l'exposition comme outil de médiation pour comprendre des termes vraiment très récents, dans la presse généraliste, on va dire, qu'on entend à tout bout de champ, intelligence artificielle, algorithme. Donc on a tout un panel d'œuvres qui vont plutôt être destinées à la compréhension de nos usages quotidiens. Donc qu'est-ce que c'est que se représenter sur Internet ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'utiliser un filtre graphique pour s'embellir ou s'ajouter des oreilles de lutin ? Quels sont les bénéfices de cette représentation sur Internet, mais aussi les dérives, par exemple harcèlement, etc. Donc on a tout un fil comme ça qui est plutôt consacré aux relations, j'ai envie de dire, adolescentes, mais pas que adolescentes en vérité, pour questionner vraiment nos usages numériques et comprendre vraiment comment fonctionnent les outils. Là, j'ai beaucoup parlé de portraits, mais on n'est pas juste sur de l'IA générative d'images, on va être aussi sur les différents types d'IA pour générer du texte, pour générer de la voix. Et puis, on terminera par se poser la question du rapport entre la nature et l'artificiel. Ça, j'avais vraiment envie qu'il y ait une sorte de boucle et un retour comme ça dans l'exposition. Donc, une fois qu'on aura montré toutes ces relations machiniques, on a des installations qui nous parlent aussi beaucoup d'un environnement global machine, par exemple les centres de tri qu'on appelle les dark factories, qui sont uniquement gérés par des machines et donc vraiment qui ne suivent plus du tout les cycles naturels du vivant en termes de lumière, etc. Et donc une fois qu'on est dans ce monde machine, se poser la question de est-ce qu'on a envie d'aller jusqu'à reproduire la nature et jusqu'à quel point on a envie d'artificialiser notre monde. C'est comme ça qu'on a aussi invité des artistes qui vont nous parler d'adolescents qui ont envie de muter en fleurs, des escargots qui se fabriquent des carrosses pour aller 1000 fois plus vite. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller toujours plus vite, toujours plus loin ? Est-ce que la notion de progrès doit être toujours associée à à cette expansion. On a des plantes qui dansent aussi. Et donc, j'avais très envie de finir l'exposition sur vraiment ce vivant, de voir de vraies plantes exposées pour se poser la question de si finalement la nature n'est pas plus magique que toutes ces machines qu'on utilise tous les jours.
Et quelque chose de super intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup dire que l'intelligence artificielle va remplacer les artistes, mais les artistes se sont emparés de l'intelligence artificielle. Ça me permet de faire cette transition avec toi, Léa Collet. Donc, tu as créé un spectacle, enfin une installation, mm-hmm. qui s'appelle Digitalis. Est-ce que tu pourrais nous la présenter, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. C'est un parfait rebond, en effet. Digitalis, c'est une œuvre que j'ai créée, j'ai commencé le projet en 2023 avec un groupe de collégiens de Tourcoing, dans les Hauts-de-France. Et j'ai approché ce groupe de collégiens, ils étaient 9, en leur proposant un scénario un peu que j'appelle de science-fiction, en leur disant « Écoutez, on va essayer de réfléchir ensemble à comment se transformer en fleurs. » Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, est-ce qu'il y a un effondrement écologique et que du coup, c'est le seul choix, c'est de se transformer en fleurs, ou est-ce que c'est leur propre décision, voilà, peut-être une sorte de rébellion de vouloir devenir fleurs. Mais en tout cas, on les suit un peu dans cette quête de recherche de mutation. Donc, tout d'abord, on a fait tout un travail de vraiment de recherche scientifique, où on est allé interroger des scientifiques en biologie végétale à l'Université de Lille. Puis, on est allé au Conservatoire national de Bayeul visiter les préservations de plantes des Hauts-de-France. Et ensuite, du coup, à travers cette recherche scientifique, on s'est tourné vers une intelligence artificielle, puisque les scientifiques nous disent à un moment, donc bien sûr, ça prend la forme d'un film, pas seulement, mais il y a une vidéo qui est la principale trame narrative. Et dans cette vidéo, on entend une des scientifiques qui nous dit on ne peut pas muter en fleurs scientifiquement, par contre, on peut essayer de l'imaginer. Et du coup, le film bascule à ce moment-là et on commence à comprendre que les collégiens, les collégiennes commencent à sortir leur téléphone portable et à scanner en 3D des plantes. Et à travers ce scan 3D, on commence à rentrer dans un monde plus artificiel. Et là, c'est ce que j'appelle l'imagination artificielle plus que l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un peu de la sémantique. Voilà, on peut aussi en discuter. Il se tourne vers cette imagination artificielle qui permet de visualiser ces mutations. Donc c'est grâce à l'intelligence artificielle que les collégiens, collégiennes vont se transformer. Et ça, c'est vraiment la fin de l'histoire. Et le tout est présenté dans une installation qui est sur une sorte de socle qui a été construit sur roulettes, avec des lumières, avec des fleurs, des choses qui s'éteignent, qui s'allument, de la brume. Tout a été programmé ensemble. D'autres petits écrans où on voit les mutations. Donc il y a plein de choses qui viennent se passer, comme un laboratoire un peu... un petit laboratoire scientifique ou un cabinet des curiosités, mais quelque chose qui est... on n'arrive pas trop à le placer. Est-ce que ça vient d'un futur proche ? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qu'on a sorti d'un placard ? J'aime bien jouer avec cette ambiguïté de ne pas savoir d'où viennent les images, comment est-ce qu'elles ont été fabriquées, et pareil pour l'objet en lui-même.
Tu as accompagné des petits artistes en herbe finalement, et je voulais te demander justement quelles ont été leurs réflexions à ces jeunes, voilà, de quelle manière, quel regard ils portaient sur l'IA, quelles ont été leurs premières réflexions au début quand tu leur as présenté le projet ?
Mmh. Ça a été un long parcours. Alors au début, c'est vrai qu'il y a eu vraiment des vraies peurs, mais qui étaient plus sur cette idée de se transformer en fleur et ce que ça voulait dire en fait. Donc au début, c'était mais on va nous marcher dessus, on va mourir, on va être statique, on va pas pouvoir bouger, et nos copains, nos familles, etc. Donc c'était des vraies questions existentielles Qu'est-ce que ça veut dire de se transformer en fleur ? Et puis, au fur et à mesure du projet, tous, en plus d'interroger les scientifiques, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une vraie question sur notre relation à la nature et comment on la considérait. Et là, je pense que ça a ouvert certains imaginaires, ou en tout cas, ça a ouvert une conscience peut-être plus écologique de notre relation à la nature. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on a beaucoup travaillé, on a beaucoup échangé, on a beaucoup écrit là-dessus. Et après, sur les outils technologiques, j'avais de la chance parce que je suis tombée sur un groupe qui était assez averti. En tout cas, il y avait quelques gamers déjà dans le groupe, donc qui avaient un peu une conscience de cette... de cette idée de se dire bah, comment est-ce qu'on peut être autre ou avoir une autre identité en ligne, etc. Et au début, donc l'intelligence artificielle, moi, je l'ai entraînée un peu de mon côté. Ils sont revenus à un moment du projet pour voir les résultats. C'est vrai que c'était pareil. Il y a eu beaucoup de peur, d'appréhension. Et finalement, au fur et à mesure, plus les collégiens, collégiennes regardaient ces mutations, plus il y avait une sorte d'émerveillement et une ouverture sur l'imagination. Et ce qui a été super chouette, c'est que certains et certaines l'ont présenté au brevet et ont eu des super notes. Et voilà, donc ça a entraîné plein de réflexions sur leur propre existence et leur propre identité.
On sent dans ton témoignage que tu as passé un super moment avec ces jeunes et que du coup, à mon avis, le résultat va être chouette. Je vais pas trop te demander les réflexions que tu as travaillées sur cette installation parce que les gens verront le spectacle et y réfléchiront à ce moment-là. Par contre, je voudrais bien que tu me parles un petit peu de cette fameuse IA. Quelle IA, quelle intelligence artificielle tu as utilisée? Est-ce que tu peux nous la présenter?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai tout d'abord, donc j'ai vraiment, j'étais à tâtons, donc j'ai tâtonné plein de choses. J'ai travaillé tout d'abord avec un chercheur de l'IRCAM, Axel, qui lui a entraîné des portraits des collégiens de son côté avec une IA qu'il a codée lui-même. C'était un style gun, donc c'est quelque chose qu'il avait fait lui-même. Et puis finalement, les résultats n'étaient peut-être pas ce que j'avais imaginé. Donc je me suis tournée vers une IA que j'ai installée localement sur une machine qui est Stable Diffusion. Et ça, ce qui est vraiment chouette avec Stable Diffusion, c'est que c'est une IA qui est en open source. Donc, on peut aller trifouiller les codes et on peut aller changer des choses et changer plein de paramètres. Et peut-être Stable Diffusion, bon, je ne veux pas en faire la pub, mais quand même, la personne qui a inventé Stable Diffusion, c'est quelqu'un qui est très ouvert et quelqu'un qui a une réflexion assez intéressante sur les utilisations des IA génératives. Et donc, ça faisait aussi sens de me dire, j'utilise une IA qui est assez ouverte et que je peux manipuler, que je peux entraîner, que je peux nourrir. J'aimais bien aussi ce parallèle avec la nature et se dire on nourrit, on prend soin de l'IA. Donc je lui ai donné plein d'images de fleurs pour d'abord faire mon propre style et ensuite je lui ai donné des images des portraits des collégiens et je lui ai demandé de créer des mutations. Donc ça a été un entraînement de à peu près 3-4 mois où j'ai essayé plein de choses et c'est ça qui est chouette avec Stable Diffusion, c'est qu'on peut le traiter en local. Donc rien ne sortait de mon réseau à moi. Et du coup, il n'y avait pas ce problème de la donnée, d'où elle venait, comment est-ce qu'elle était traitée, etc., puisque c'était ma donnée.
Merci pour toutes ces infos un peu techniques, mais qui me semblent aussi super importantes, parce que je pense qu'il y a une réelle méconnaissance de ce que sont les outils d'IA, et l'IA est omniprésente déjà depuis très longtemps. Là, elle revient, elle est sur le devant de la scène avec avec ChatGPT, etc., mais elle est présente depuis très longtemps, il y a plein de façons de l'utiliser. Donc merci pour ces premières données. Peut-être aussi revenir sur l'expérience spectateur-spectatrice. Cette fois, concrètement, on a une installation en face de nous, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit, qu'on observe 5 minutes? Est-ce que ça a une durée précise? Comment ça fonctionne?
Bien sûr, ouais. Alors, donc, comme je disais, il y a une vidéo principale qui est la trame narrative qui dure, elle, 24 minutes. Et tout a été programmé, donc tous les autres artefacts qui sont autour de cette installation ont été programmés en fonction de cette vidéo. Après, l'idée, c'est que c'est une œuvre, enfin une installation qui fait 360 degrés, donc on peut vraiment tourner autour. Et c'est d'inviter le spectateur, la spectatrice à naviguer autour. Donc il n'y a pas vraiment une obligation de rester 24 minutes pour suivre le récit. On peut vraiment juste venir apprécier peut-être quelques minutes du film. Et le film a été aussi divisé en chapitres qui permettent peut-être aussi de se situer, de savoir où est-ce qu'on est au moment où on rentre dans la pièce. Donc, c'est vraiment ouvert à la manière dont on appréhende l'œuvre. Il n'y a pas d'obligation, il y a des sièges qui sont très confortables, qui sont sur roulettes, puisque l'œuvre en elle-même est sur roulettes. Il y avait une idée de mouvement aussi, de quelque chose qui continue à grandir et qui continue à se déplacer au fur et à mesure du temps. Donc, c'est vraiment c'est assez ouvert sur la manière dont on peut voir l'œuvre.
On peut aussi peut-être revenir sur les jeunes. Est-ce qu'ils sont présents à un moment donné pendant les safras numériques?
Peut-être. Peut-être qu'ils ou elles vont venir. Ils ont été très présents au moment où l'œuvre a été, a été montré pour la première fois. C'est vrai que je suis encore en lien avec eux via les réseaux sociaux, donc comme quoi c'est assez utile pour ça. Il faudrait, je vais leur dire, je vais leur proposer. Après, ils sont quand même basés à Tourcoing, donc c'est pas si facile que ça de venir jusqu'à Amiens pour eux et elles. Et puis chacune est partie dans sa vie, puisque c'était des collégiens de troisième à l'époque. Donc maintenant, ils ne sont plus en troisième et chacun a commencé sa vie.
Quand est-ce que tu as commencé à travailler sur ce projet, peut-être pour qu'on le resitue ?
Oui, c'était dans le cadre de mes études au Frénois. Le Frénois, c'est le Studio National des Arts Contemporains qui est basé à Tourcoing. Et c'était en septembre 2020. Attendez, je me confonds dans les années. 2023, c'est ça.
Ok, exactement. Super. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté ton travail. Je vais peut-être revenir à toi, Cécile, concrètement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous présenter rapidement, ou alors on embraye sur cette fameuse soirée de clôture qui promet d'être assez endiablée, assez impressionnante.
Merci beaucoup pour toutes tes questions. Faire parler les artistes, c'est vraiment nous ce qui nous motive aussi, et donc montrer comment derrière des techniques, on a ces imaginations donc créatives, et comment ça apporte beaucoup de contenu et comment ça peut toucher énormément de sujets qui vont être philosophiques, culturels, moraux, enfin vraiment des choses qui peuvent nous accompagner au quotidien. Donc l'un des objectifs du festival, c'est justement de montrer que l'art numérique, c'est pas simplement j'appuie quelque part et ça va faire un son, et non, c'est vraiment montrer qu'il y a des contenus et des sujets, et sans ces sujets-là, on ne pourrait pas accompagner les publics et faire des médiations comme ça pendant une heure ou deux heures. Donc ça, vraiment, merci d'avoir montré ce contenu-là. Et puis, pour moi, l'installation de Léa, c'est un très bon exemple, elle est vraiment canonique aussi de notre démarche, c'est-à-dire qu'elle l'a très bien décrite. Pour moi, En déambulant comme ça autour de sa structure, autour de la sculpture, on a accès au processus de création quelque part, pas à la totalité.
C'est exactement ce que je perçois moi en tout cas,
oui, voilà,
sur le
spectacle. Aux étapes et aux différents éléments, et comment on va associer plusieurs choses. Donc c'est vraiment arriver à visualiser, à mettre en image un travail de recherche et de réflexion. Voilà, et ça c'est aussi un des objectifs du festival, puisque en même temps que l'exposition, on a toujours ce principe d'atelier. Là, cette année, on a 8 ateliers qui sont proposés au public individuel, mais aussi aux groupes qui s'inscrivent pour à la fois des visites et à la fois vraiment une pratique d'atelier. C'est très important pour nous d'accompagner le regard par aussi le faire et l'apprentissage. Donc, par exemple, comment réaliser une case de bande dessinée avec une IA pour se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas si simple, ce n'est pas de la triche, qu'il faut vraiment réfléchir à ses requêtes, aux mots qu'on emploie, à l'étymologie, enfin, vraiment faire comprendre, et donc pour que les publics soient d'autant plus maîtres, en fait, de leurs pratiques et de leurs usages.
Concernant la soirée de clôture, qu'est-ce que vous nous avez concocté ? Donc c'est un mélange de, c'est un spectacle, un mélange d'installation et de musique. Ça promet d'être assez énergique, assez endiablé. À quoi ça va ressembler ? Camille, est-ce que tu veux nous en parler ?
Alors du coup, la soirée de clôture, ça sera le samedi 23 mars. On aura du coup les installations qui sont accessibles jusque 22h, comme le vendredi. Donc les publics ont vraiment le choix d'aller de faire les installations de manière même un peu dans la soirée. Et on aura surtout le concert de Sugar Sugar, qui est un duo électro à 20h. Et donc là, cette partie-là est payante, mais comme pour le spectacle de Yangui tout à l'heure, c'est de 5 à 14 euros les tarifs. Et donc ça commence à 20h et puis ça va être un set de 1h, 1h30 sur le plateau directement du Safran.
À quoi va ressembler leur performance en me renseignant ? C'est évidemment pas du tout exactement la même chose, mais j'avais l'impression aussi de voir un peu du ce que peut proposer Vers la Tour, par exemple. J'ai vu aussi des installations un petit peu industrielles. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu ce spectacle ? Comment il va se dérouler finalement ?
Alors du coup, il y aura en tout cas des jeux de lumière avec des espèces de disques qui seront derrière eux pour vraiment être dans une ambiance très immersive. Qui sera, enfin la lumière du coup sera reliée au son et tout, qu'ils pourront produire sur scène. Donc voilà, ça va vraiment être des jeux de lumière très immersifs.
En fait, je voulais ajouter, puisque tu parlais de l'aspect festif de ces deux soirées, de ces deux nocturnes, comme le disait Camille, on peut à la fois aller visiter les expos, aller au concert ou au théâtre, et en même temps, on a des choses qui vont se passer sur l'esplanade à l'extérieur du Safran. pour vraiment sortir du lieu aussi et puis signaler à tous les habitants du quartier qui peuvent venir vers la fête. On a un jeu vidéo mappé sur l'une des façades du Safran, au laser, dans une esthétique vraiment très années 80. Voilà. Et puis, on a aussi du théâtre de rue. On a une compagnie hollandaise qui vient et qui va nous présenter des sculptures qui ressemblent à des animatroniques, en fait, donc qui vont à l'encontre comme ça aussi du public. Donc, voilà, venez vous amuser avec nous.
Et c'est vrai que c'est une volonté des Safrans numériques et du Safran depuis quelques années. C'est aussi de s'ouvrir aux gens qui habitent à côté du Safran et de faire un moment festif, notamment de créer un moment festif sur les Safrans numériques. On peut peut-être revenir. Oui, Léa, je t'en prie, si tu veux prendre la parole. Vas-y.
Pardon. Non, je réfléchissais, ça me faisait. Je me suis dit, j'ai même pas mentionné la résidence et le chaudron. Juste. Pour préciser, je suis aussi actuellement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi j'expose durant les Safras, je suis en résidence en art numérique avec l'UPJV et le CROUS en ce moment. J'ai eu l'occasion de travailler avec un groupe d'étudiants et étudiantes pendant 2 mois sur ces questions de botanique, d'intelligence artificielle, d'outils numériques. Et il va y avoir une restitution des œuvres que chacun, chacune a pu produire durant ces 2 mois au chaudron, en même temps que les Safras. Donc, notre soirée d'ouverture, c'est mardi, mardi 19, merci.
À 19h.
Ouais. Voilà, à 19h.
Je vais profiter de cette intervention pour préciser que, bah oui, il y a énormément de choses en fait qui sont proposées pendant les Safras numériques et ça me permet de me tourner vers toi, Camille. Est-ce que tu pourrais me rappeler les dates des Safras numériques, éventuellement où est-ce qu'on peut acheter nos billets, où est-ce qu'on peut retrouver vos infos, parce qu'on commence à voir des flyers, des affiches fleurir un peu partout dans Amiens, mais où est-ce qu'on peut se renseigner plus précisément aussi sur cet événement qui va durer une petite semaine?
Alors du coup, les Safras numériques, c'est du 19 au 23 mars, donc du mardi au vendredi. De 9h à midi, de 13h à 19h, du mardi au jeudi, et le vendredi et le samedi, donc c'est jusque 22h. Toutes les informations, on peut les retrouver sur notre site internet, donc c'est amiens.fr/lesafrans ou /lesafrans numériques directement. Et pour réserver, on a une billetterie en ligne, accessible depuis notre site internet. Sinon, on peut aussi passer au Safran pour réserver des places ou utiliser l'adresse mail de la billetterie pour les réserver. Donc c'est billetterie.safran@amiens-metropole.com.
Avec des tarifs préférentiels pour les étudiants, j'imagine.
Pour les étudiants, c'est 5€ dans le cadre du passeport vie étudiant.
Il n'y a que des bonnes raisons d'aller au Safra numérique. Peut-être un mot de la fin, quelqu'un veut prendre la parole pour conclure cet échange et nous donner envie une dernière fois d'aller au Safra numérique.
J'ai juste envie de dire bon festival. Non, je voudrais peut-être remercier les équipes. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé un peu de l'organisation. Ça ne va pas forcément motiver les personnes à venir nous voir, mais si les collègues nous entendent, on est nombreux à travailler toute l'année pour organiser cet événement. Donc, merci à tout le monde.
Le message est passé. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à mes questions et à la prochaine.
Merci.
C'est déjà la fin d'InfoClub Sandwich. Pour rappel, Cécile, Camille et Léa sont venus nous présenter la prochaine édition des Safras numériques qui auront lieu du 19 au 23 mars 2024. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et tous et à très vite sur Radio Campus Amiens.